Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode du Voyage des Cinéphiles. Aujourd'hui, on est en compagnie de Mathilde, Céleste, Jeanne et moi-même Louise. Alors les filles, aujourd'hui, on va parler de quoi ?
Alors aujourd'hui, on va parler des Oscars. Alors ça s'est déroulé de la nuit du dimanche au lundi dernier.
Ouais, et du coup, vous avez regardé ou pas ? Enfin...
Ouais, moi j'ai trouvé que cette année, les Oscars, ils étaient vraiment dans une bonne ambiance. Tout le monde semblait être décontracté et très réceptif au moment assez épique.
Moi j'avoue que j'ai attendu un peu avant de regarder parce que j'attaquais à 8h le lendemain, ça faisait un peu tard.
Pareil, je comprends. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué ? Je sais pas, vous avez quelques trucs à dire sur les Oscars qui étaient quand même assez denses, je dirais, cette année.
Bah, il y a un moment assez marquant, justement, des moments épiques. C'est l'intervention de John Cena qui a été très amusante, où il était presque nu avec une pancarte et ça a fait rire un petit peu tout le monde. Voilà, c'était assez drôle.
Et vous savez que justement, il y a un truc intéressant par rapport à ça. Bah, c'est vrai que là, depuis janvier, il y a pas mal de remises de prix qui s'enchaînent en Amérique ou même partout dans le monde, sur la musique, le cinéma. Et je trouve ça intéressant de démarrer plutôt sur un sujet du sexisme qui est assez présent dans ce monde-là. Parce que la performance de John Cena, justement, qui arrive tout nu sur scène, tout le monde a dit que c'était très drôle, même courageux de faire ça pour les Oscars. Et il y a eu plein de critiques, par contre, sur des tenues de femmes dans ces remises de prix, en disant que c'était totalement vulgaire, qu'elles devraient avoir honte. Et je trouve ça intéressant qu'un homme tout nu soit nommé courageux, alors que des femmes avec des tenues osées, mais après, c'est enfin tant qu'elles sont bien, voilà, mais soit vivement critiquées sur les réseaux. Vous en pensez quoi ? Est-ce qu'on peut lier ça aussi à des films, des scénarios ?
Déjà, on peut relier justement avec une critique qu'il y a eu avec Barbie. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont pointé en fait tout simplement du sexisme par rapport à la remise des prix. Alors, pas forcément toujours au niveau des Oscars, mais que le film Barbie n'a pas été récompensé à la hauteur, justement parce que c'est un film qui a été produit, enfin réalisé par une femme, avec comme personnage principal une femme. Il y en a beaucoup qui regrettaient ça et que je ne comprenais pas pourquoi il y avait autant, par exemple Oppenheimer avait gagné autant de prix par rapport à Barbie, ou tout simplement Barbie, enfin d'autres films par rapport à Barbie.
Bah justement, il y a un peu un débat autour de ça. Moi je sais que je peux comprendre qu'on pense ça pour Barbie, mais personnellement je trouve Barbie c'est moins un film à Oscar. Je ne saurais pas trop comment expliquer ça, mais je trouve ça ressemble vraiment au blockbuster américain en mode... Enfin, on peut pas y comparer à Top Gun, mais c'est un peu la même idée de... C'est super commercial, etc. Alors que Oppenheimer, je trouve, ça a fait un peu plus... Ouais, le film d'auteur, etc. Je trouve Barbie est un film excellent, avec une réflexion excellente derrière. Mais moi, ça m'a pas tant choqué que ça qu'il ait moins sa place aux Oscars et qu'il ait quand même une prestation comme I'm Just Ken avec Ryan Gosling.
Bah, moi, je suis pas vraiment d'accord parce que je trouve que c'est un film quand même vraiment recherché et qui a des décors qui sont assez impressionnants. Et les jeux d'acteurs de Ken et Barbie, du coup, Ryan Gosling et Margot Robbie, sont très bien joués en fait, et j'étais pour ma part très déçue que Margot Robbie ne remporte pas d'Oscar, parce que déjà dans son intervention dans le film Babylone, elle n'en a pas eu, et pour le film de Barbie non plus, donc je reste un peu sur ma faim.
Moi, concernant le film Barbie, donc qui a gagné, remporté la meilleure chanson originale, je te rejoins sur les décors que j'ai vraiment appréciés. Je les ai trouvés très très colorés et ça nous ramenait un peu en enfance, quoi. C'était vraiment un point fort du film. Voilà, la DA, elle était sympa. Et après, je l'ai trouvé drôle, léger. Enfin, c'était vraiment démesuré, quoi. Parce que ça part de la bêtise, de la naïveté, de ces hommes, quoi, qui sont représentés comme des potiches dans le film. Et je l'ai trouvé bien joué par Margot Robbie et Ryan Gosling, encore, comme t'as dit. Et voilà, c'était une proposition qui changeait.
Après, j'ai trouvé que la rétrospection sur la vie des femmes, elle était aussi très bien faite, parce que le fait qu'on switch entre les hommes et les femmes quand Ken, justement, réimporte, on va dire, le patriarcat dans le monde de Barbie. J'ai trouvé ça très bien fait et par moments, je me voyais dans le film, dans la vie quotidienne des femmes et ce qu'on peut vivre dans le cadre du travail, à la maison ou dans nos relations.
Justement, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris le but de ce film. C'est justement d'utiliser l'humour, un peu le côté justement blockbuster américain, pour dénoncer en fait justement ce que les femmes vivent tous les jours, tout le temps. Justement, je trouve que c'est pas assez... Enfin, les gens ils comprennent pas que justement c'est le but que ça soit comme ça, que ça n'a pas l'air d'un film d'auteur, pour justement en fait déjà pour attirer, je pense, peut-être plus de personnes et aussi pour justement faire au mieux passer le message.
Alors, je suis assez d'accord avec toi, Céleste, mais le film, je l'ai trouvé vite ennuyeux, enfin pas mal construit. Mais alors, je suis d'accord que le message était fort, surtout à la fin, quand elle est avec la vieille dame, etc. On comprend ça à bon sens. Mais j'ai trouvé qu'il y a eu énormément de com. Et personnellement, quand je suis sortie du ciné, j'étais en mode « Ouais, ok, j'ai vu Barbie. » Et j'étais un peu...
Peut-être
ma fin.
Un peu long, peut-être aussi.
Et j'ai trouvé que oui, le message était là. Et justement, en sortant, la réflexion que je me suis faite, c'est « Ok, je pensais pas que le film serait aussi politisé. » Et ça m'a vraiment surprise. Donc, c'est que le message est passé, mais je l'ai trouvé longuet et j'ai trouvé que, je sais pas, le déroulement, il était pas à la même hauteur que l'idée qui voulait être véhiculée derrière.
Oui, je suis assez d'accord avec toi, Louise, là-dessus. C'est vrai que la deuxième partie du film, je l'ai trouvé un peu plus longue.
Ouais.
Ça cassait un peu le rythme du début où vraiment, on enchaîne les blagues et tout sur un ton léger. Et après, je trouve qu'on comprend plus vraiment où le film veut en venir. Ça devient un peu trop sérieux, je trouve.
Enfin, et redondant.
Redondant, surtout. Ouais, j'ai pas tout compris. Et du coup, j'ai trouvé que ça faisait que le message j'y perdais un peu en efficacité, quoi. Et après, voilà, c'est pas non plus une critique très profonde de la société, je trouve. Enfin, faut pas totalement le voir comme ça, peut-être. Et même si c'est bien sûr intéressant. Et après, ouais, juste aussi, je pense que c'est important à rappeler que, quand même, ils capitalisent sur le féminisme, parce que ça reste quand même
Barbie.
Voilà, Barbie.
C'est vrai.
Et une pub pour Mattel, quoi.
Après, malgré le fait que Barbie n'ait pas remporté de prix, j'étais quand même hyper heureuse que Billie Eilish, elle remporte le prix de la meilleure chanson originale avec son émouvante prestation sur What Was I Made For. Cette chanson, je trouve, représente vraiment bien le film et la situation de Barbie et cette musique est hyper touchante, je trouve.
Je suis d'accord.
Et après, on peut pas passer à côté de la prestation de Ryan Gosling I'm Just Ken parce que quand même, ça a marqué les Oscars, là. Enfin, je sais pas vous, mais moi, je vais sur TikTok, je vois plus que ça.
Ouais.
Et je trouve, je crois que Céleste avait un clin d'œil à faire justement sur la prestation.
C'est un peu une reprise, enfin un hommage à Marilyn Monroe.
Ouais, donc
La tenue en rose comme elle, vraiment, juste c'était parfait et c'était vraiment très... Enfin, d'une manière, en fait, ça a été fait d'une manière très humoristique.
Ça a donné un ton léger aux Oscars, justement.
C'était un ton vrai. Et puis le fait qu'il fasse chanter toutes les actrices, qu'il fasse chanter Emma Stone, c'était vraiment cool à regarder. Les gens prenaient vraiment du plaisir à regarder sa prestation. Donc c'était vraiment... Cool.
C'était vraiment un show et c'était digne d'un spectacle, je trouve. Il a enflammé la scène, quoi. C'était impressionnant.
Vraiment. Alors, si je peux me permettre, justement, parce que je trouve que c'est assez en lien, on parlait tout à l'heure déjà de l'Oscar du meilleur décor qui a été attribué à Pauvre Créature et justement aussi un film qui s'est voulu anti-patriarcat. Qu'est-ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu déjà? Emma Stone a gagné l'Oscar de la meilleure actrice pour Pauvre Créature. Est-ce que vous avez vu des critiques sur ce film? Je sais pas.
Alors, moi, j'étais hyper contente que Emma Stone remporte pour la deuxième fois de sa carrière l'Oscar de la meilleure actrice, parce que je trouve qu'elle le mérite vraiment et que dans ce film, elle arrive vraiment à jouer cette situation de femme qui va s'épanouir peu à peu dans le film. Par contre, Louise, il me semble que tu avais quelques critiques à faire sur ce film.
Justement, Louise, par rapport à ça, j'avais vu énormément de critiques, notamment sur Quotidien, qui disaient que le message dans le film il voulait faire passer, c'était par rapport au patriarcat, comme quoi le personnage d'Emma Stone, au début, elle est un peu ingénue, elle connaît pas tout son côté patriarcat, etc. Et qu'après, justement, on a vraiment cette critique-là du patriarcat et que il y a vraiment une déconstruction de ça. Est-ce que tu es d'accord? Qu'est-ce que tu en penses?
Alors après, c'est que mon avis personnel. Alors ce film, je trouve le jeu d'acteur incroyable, mais je trouve le film nul. Enfin, après, c'est vraiment mon avis personnel. C'est un film d'auteur, je peux comprendre qu'il y en ait qui aient trouvé ça génial. Déjà, pour revenir un peu sur la base du scénario, en gros, c'est une femme, un scientifique, lui a implanté un cerveau d'enfant. Du coup, dans le corps d'une femme, en fait, elle agit comme un bébé, comme un enfant qui apprend à gérer sa motricité, qui parle comme un bébé, qui apprend à manger, à parler comme il faut. C'est un peu spécial, déjà, et l'ambiance est hyper ténébreuse, un peu, comme tu disais, Jeanne, avant le podcast, à la Tim Burton un peu. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai trouvé que c'était un loupé. Enfin, parce que le côté patriarcal... En fait, j'ai trouvé que la liberté justement donnée aux femmes, elle était bâclée par beaucoup trop de scènes de sexe. Et j'ai trouvé ça super dommage parce que du coup, j'ai trouvé le film plus vulgaire que centré sur la femme qui se libère, etc. Alors, le jeu d'acteur, encore une fois, était génial de Emma Stone. Mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de rôles masculins qui, du coup, étouffaient le rôle de la femme dans ce film. J'ai trouvé qu'au final, on vulgarisait la femme au lieu de la mettre en avant. Enfin, j'ai trouvé que la manière d'exploiter le scénario qui de base était intéressant était franchement décevante et le film était même long, méritait pas autant de temps. Enfin, je suis trop déçue.
Je te rejoins sur le fait qu'il y a eu beaucoup trop de scènes de sexe dans le film et ça a été trop mis en avant comme si la femme elle pouvait s'épanouir finalement que dans ce milieu-là, alors qu'il y avait tellement de milieux à exploiter et ça pouvait être tellement plus intéressant. Par contre, moi, ce que vraiment j'ai adoré dans ce film, c'est les décors, les costumes. C'était vraiment, oui, c'est ça.
D'un point de vue artistique, par contre, c'est fort. Bah, ils ont gagné tous les Oscars totalement. Concernant maquillage, du coup.
Coiffure, direction artistique et les meilleurs décors, du
costume,
coup.
Costumes, ouais.
Et vraiment, cet effet à la film Tim Burton, moi, j'adore. C'est très fantasy et ça part un petit peu, même parfois, dans tous les sens. Mais je comprends qu'on puisse trouver ça aussi désagréable.
Puis il est gore, ce film. Ouais, il y a assez. Des scènes, je veux dire, faut pas craindre le sang ou des choses comme ça. En fait, il met mal à l'aise. Moi, je dirais ça. Ouais, dans une salle de cinéma avec 15 personnes, tu te sens pas à ton aise.
Mais est-ce que c'est pas le but, justement ?
Je pense. Mais après, c'est vraiment, je pense qu'il y a vraiment différents avis. Mais moi, je trouve que du coup, la notion de patriarcat, de l'épanouissement de la femme et tout,
il ressort mal sur ce film.
Je l'ai pas trouvé bien exploité et beaucoup trop sexualisé, beaucoup trop.
Après, le film, si je me trompe pas, il a été réalisé par un homme. Donc est-ce que ça joue un peu ?
Évidemment.
Peut-être. Mais Emma Stone continue quand même de mériter amplement son Oscar. Oui. Je suis très contente qu'elle l'ait gagné. Mais voilà, petite déception sur ce film. Dans les films des Oscars, est-ce qu'il y en a d'autres qui vous ont marqué, parce qu'il y a eu des récompenses qui ont marqué.
Oui, moi il y a un film qui m'a beaucoup marqué, c'est La Zone d'intérêt, donc qui a remporté le prix du meilleur film étranger et le prix du meilleur son, donc un film réalisé par Jonathan Glazer. J'ai trouvé qu'il y avait une très bonne maîtrise visuelle et sonore dans le film, parce que il arrive vraiment à nous plonger dans une ambiance qui est froide, lourde tout le long du film, et c'est assez déstabilisant, perplexe pour le spectateur, et parce qu'on vit vraiment une expérience troublante. Donc pour vous rappeler un peu, si vous n'avez pas vu le film, il nous plonge dans la période allant de 1939 à 1945, où le lieutenant Rudolf, sa femme et ses enfants sont installés dans une magnifique maison vraiment champêtre, calme, chaleureuse, entourée d'un grand jardin verdoyant qui est rempli de vie. Mais cette maison se situe juste à côté d'un camp de concentration, Auschwitz, et il y a seulement un mur qui sépare cette maison du camp. Et donc le film se base sur ce contraste entre les deux lieux, mais sans jamais filmer l'intérieur des camps. Donc on voit jamais ce qui se passe dans le camp, mais c'est la bande-son qui permet d'imaginer ce qui se passe dans le camp. Ça joue, ça contribue au fait de nous mettre dans une situation de malaise. On voit des images jolies, belles, remplies de vie.
Le son est horrible.
Et le son est horrible, ouais.
Ok, parce que tu nous conseillerais d'aller le voir, du coup. Est-ce que aussi, d'un point de vue historique, il est intéressant ?
Je pense que c'est surtout au niveau des images, du visuel, qu'il est hyper intéressant à voir. Et vraiment, on vit une expérience totale tout le long du film, en fait. On est vraiment plongé dedans.
Puis c'est assez fou quand même qu'il arrive à nous mettre mal à l'aise rien qu'avec du son,
ouais,
je pense.
Parce que tout s'entend, mais se voit pas. Et il y a une opposition permanente entre la lumière et l'ombre, et la vie et la mort. Et ça nous met dans une situation d'inconfort. Justement, Jonathan Glazer, il a livré un discours assez engagé quand il a reçu le prix, où vraiment il prenait position avec la situation actuelle en ce moment à Gaza. Et c'était vraiment un parti pris de sa part, et je pense que c'est honorable. Voilà.
Et justement, la situation actuelle à Gaza, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a énormément d'acteurs, de réalisateurs qui portaient un pins aux Oscars, justement. Et du coup, on voit quand même qu'il y a eu une mobilisation et qu'il y a eu un engagement dans ces Oscars. Après, je ne sais pas quelle portée ça aura, mais on peut observer quand même un engagement et une dénonciation aussi, c'est ce qui est intéressant.
Oui, puis aussi dans sa prise de parole, il rajoute que le film, il a été vraiment pensé par rapport à ce qui se passe actuellement dans le monde et pas vraiment pour montrer ce qui s'est passé dans l'histoire. C'est pas que ça, en fait, il le rapporte comme il le dit au présent.
Alors, je voulais rebondir. Le film Zone d'intérêt, du coup, était nommé dans la catégorie meilleur film étranger, et on retrouve aussi dans cette catégorie un film français qui a énormément fait parler de lui, Anatomie d'une chute. Est-ce que vous l'avez vu ?
Alors moi, j'ai adoré ce film. Parce que la réalisatrice, elle a quand même réussi, je trouve, à nous intéresser sur un procès pendant, je ne me rappelle plus vraiment de la durée du film, je crois que c'est 2h30, 3h, ce qui est quand même assez long. Avec cette histoire de procès, je trouve qu'on ne s'ennuie pas du tout. Et les jeux d'acteurs, ils sont juste impressionnants. Après, ils avaient déjà été récompensés de nombreuses fois encore. Mais j'ai trouvé ça vraiment bien que les Oscars leur accordent le meilleur scénario original.
Parce qu'il me semble donc qu'ils n'ont pas été nominés dans la catégorie meilleur film étranger, c'est ça ?
Non, pas meilleur film étranger, mais meilleur film, tout court. ce qui est quand même...
C'était meilleur scénario original.
Et ils étaient nommés meilleur film aussi. Meilleur directeur contre Christopher Nolan. Je ne sais plus si c'était meilleur film ou meilleur directeur, mais ils étaient directement dans une catégorie en compétition avec Christopher Nolan, ce qui est quand même assez gratifiant.
Oui, vraiment.
Et c'est vrai qu'il y a aussi un débat autour du film Anatomie d'une chute. Bah, déjà... c'est un film indépendant français qui n'a pas du tout été réalisé en vue d'arriver aux Oscars ou même d'être vu à l'international. Justine Thiriet. Bon, on n'arrive pas à prononcer son nom. Elle explique que même elle pensait pas du tout atteindre les Oscars. Est-ce que vous pensez que le film, il connaît un tel succès parce que c'est un film indépendant français ou vraiment parce que son scénario en vaut le coup parce que,
voilà. Moi, je trouve qu'il mérite vraiment sa place et son prix. Et je te rejoins, Jeanne, quand tu disais que vraiment, ils arrivent à nous intéresser pendant une durée quand même assez longue. Et voilà, aussi, ils apportent une réflexion autour de la justice. Ça permet vraiment de nous donner une idée visuelle du comment fonctionne la justice. Vraiment, on entre en immersion dans un tribunal lors du procès. Est-ce que je rappelle ou pas le scénario du film?
Oui, ouais, carrément.
Donc, le film, il raconte, si vous ne l'avez pas encore vu, le film raconte dans un coin isolé de montagne, un homme qui est retrouvé mort au pied de sa maison se met en place toute une enquête pour mort suspecte. Est-ce qu'on soupçonne sa femme de l'avoir tué? Donc, on se demande est-ce que ça serait un homicide, un suicide ou bien un accident. Et donc, sa femme Sandra, je trouve qu'elle joue vraiment super bien parce que c'est un personnage très intéressant. Elle est dans le contrôle de ses émotions, ses peurs et aussi... elle assume sa liberté dans le couple. La réalisatrice, elle joue des codes de genre, en fait, mais très subtilement, parce qu'elle remet en question le couple et la masculinité, mais jamais vraiment sans le dire ouvertement. Et du coup, j'ai trouvé que c'était aussi un point intéressant du film. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Je suis assez d'accord avec toi. Et je rajouterais aussi qu'on voit vraiment la pression qui est mise sur les gens à la barre durant les procès. C'est très bien réalisé. Après, j'ai trouvé ça aussi super qu'un film indépendant français soit justement mis en concurrence avec Christopher Nolan, parce que certes, il n'y a pas des effets spéciaux grandioses, on n'est pas dans des lieux immenses, mais justement, c'est par cette réalisation et...
Si, c'était inattendu. Et juste, l'actrice principale du coup de Anatomie d'une chute, on est d'accord, elle joue aussi dans Zone d'intérêt. Ou, je crois, non.
Non.
Non, il me semble, Sandra Müller. Je crois qu'elle joue aussi dans Zone d'intérêt.
Ouais,
elle est dans les deux films nommés.
Je crois.
Et justement, par rapport à Christopher Nolan, je pense quand même qu'on va accorder beaucoup de temps à Oppenheimer, qui reste du coup le grand gagnant de cet Oscar. Et que, faut le dire, je pense qu'on est toutes d'accord pour dire que c'est un excellent film et qu'il y a énormément de choses à dire dessus.
Moi, je suis sortie de la salle, j'étais choquée.
De Cillian Murphy. Ouais, mais on est d'accord, c'est un film, tu vas le voir, tu sors, t'es... Tu te dis, ok, là je suis allée voir un excellent film au cinéma.
Ouais, ça m'a vraiment fait cet effet-là aussi en sortant de la salle. J'ai adoré.
Oui, aussi. En fait, c'est... Je l'ai regardé dans la même période que Barbie, du coup.
Pendant la concurrence de l'été. Et t'as préféré Barbie?
Enfin, non, je peux pas les comparer parce que c'est vraiment deux films qui ont rien à voir. Mais je trouve que c'est quand même un film qui est très complexe à regarder. Il est incroyable, vraiment, il est incroyable. Mais le fait que ça change d'époque, du coup, à chaque fois, quand ça change pas d'époque, mais de... Au niveau de la temporalité, ils mettent ça en noir et blanc.
Ah, faut pas s'endormir au milieu du film.
Non, parce que sinon, je comprends rien.
Ouais.
Et je trouve aussi, faut vraiment le moment où on passe au procès à la fin. Mm. Pour moi, si on s'est pas accroché à ce moment-là, une fois qu'on s'est accroché, ça passe tout seul. Mais il y en a plein qui ont décroché à ce moment-là et ils ont pas réussi à suivre la suite.
Oui, voilà. Mais oui, c'est pour ça qu'il faut.
Et je pense avoir des bases aussi sur l'histoire parce qu'il y a énormément de noms, énormément de connaissances. Et je pense si quelqu'un ne sait pas du tout de quoi il s'agit, c'est un lot d'informations, mais pas possible. Mais en termes de réalisation, jeu d'acteur, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que même le casting, il y a énormément d'acteurs célèbres dedans.
Peut-être je vais juste rappeler du coup les Oscars qui ont été remportés pour Oppenheimer. Donc Oppenheimer, il a remporté l'Oscar du meilleur film, de la meilleure photographie, meilleure musique et meilleur montage. Cillian Murphy remporte l'Oscar évidemment du meilleur acteur. Donc moi personnellement, j'étais hyper contente déjà parce que j'ai adoré ce film et je trouve qu'il a un jeu d'acteur juste exceptionnel. Enfin, il mérite son Oscar. Christopher Nolan remporte celui du meilleur réalisateur. Il le mérite vraiment aussi avec ses films, je trouve, plus qu'époustouflants. Robert Downey Jr. remporte l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Son premier, donc je ne savais pas que c'était seulement son premier, donc il était temps. Par contre, un petit peu déçu pour ma part que Emily Blunt n'ait pas eu l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Après, j'ai pas vu le film de celle, du coup, je n'ai même pas son nom, malheureusement.
Break, Divine Joe Randolph. Désolée si je le prononce mal, mais ouais, aucune de nous l'a vu, donc on peut...
Non.
C'est quoi le film, déjà ?
Winter Break.
Ouais, non, je ne saurais pas, parce que ça se trouve, sa performance mérite. Ouais.
Donc c'est ça, je peux pas comparer, en fait, ce que je n'ai pas vu, mais pour moi, la performance aussi d'Emily Blunt était quand même assez...
Surtout au moment du procès.
Totalement, ouais. C'est intéressant.
Bah, moi aussi, j'ai vraiment adoré ce film, je pense, comme beaucoup. Et bah, j'ai trouvé l'histoire vraiment... Christopher Nolan, il arrive à rendre ça captivant. Le rythme, il est très dense, très soutenu. On est intéressé tout le long. On voit vraiment toutes les étapes lesquelles passe le père de la bombe atomique. Et voilà, on ressent vraiment la tension permanente. On est inquiet, quoi.
Et alors, je te rejoins sur le scénario. Et aussi, je sais pas si vous avez éprouvé la même chose, mais ce que je trouve intéressant... Moi, j'avais peur qu'il dit film... Bon, après, il est anglais, Christopher Nolan, mais film américain un peu, que ce soit sur le côté héroïque américain, comme quoi. Heureusement qu'il y a eu ça. Et en fait, j'ai adoré le fait qu'en premier lieu, ils mettent en avant « Oh là là, les héros, ils créent une bombe et tout. » Et qu'en fait, c'est très vite rattrapé par le second avis en mode « Ok, c'est bien, mais en fait, est-ce que c'est vraiment bien ce qu'on a fait ?» Et j'ai adoré cette ambivalence en mode « Le bien et le mal, quoi. »
Ça se voit dans le film que, bah oui, ils l'ont fait ce film pour parler du père de la bombe atomique, mais tout du long, on voit que justement ils essayent de dire, bah ok, ce qu'il a fait c'est grandiose scientifiquement, etc., mais c'est grave. Et on le voit à la fin, justement, le personnage que joue aussi, Cillian Murphy, justement, il le dit lui-même. Et...
Qu'il a créé la mort.
Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, ça, j'étais contente qu'ils le disent bien dans le film, parce que bah, souvent, c'est ce qu'ils font dans les films américains comme ça, c'est qu'ils héroïsent, je sais pas trop si ça se
ouais,
dit.
Mais... On oublie vite que c'est une arme destructrice.
Que c'est ça, que c'est pour la guerre, que ça a tué des gens. Voilà, donc ils l'ont bien rappelé, que ça a tué des milliers de personnes. Donc, heureusement.
Mais à la fin, ils mettaient justement vraiment en avant, je trouvais que... On a créé ce qui peut terminer le monde. Bah, à la fin, attention le spoil, mais quand il parle à Einstein et qu'il lui dit « Vous vous souvenez, je vous ai dit, j'avais peur de créer ce qui peut détruire le monde. » Et Einstein lui dit « Ouais, et alors ?» Et qu'il répond « Bah ouais, je crois que ça y est, on l'a créé, ce qui peut détruire le monde. » Et j'ai trouvé que d'un coup...
C'était pesant dans la salle.
C'était hyper pesant, en mode « Ouais ». En fait, clairement, de toute façon, on le voit bien depuis que c'est créé. Maintenant, c'est que de la dissuasion. Il n'y a plus de guerre vraiment, à proprement parler, entre les grandes puissances.
Et ça reste du coup une rétrospection sur la vie d'Oppenheimer. Et moi, j'avoue que j'avais aucune connaissance sur son sujet. Donc ça m'a déjà vachement instruite sur l'histoire de cette bombe. Et après, effectivement, les discussions aussi qui sont faites avec Einstein, je les ai trouvées hyper intéressantes. Je pense qu'ils ont essayé le plus possible de se rapprocher de la réalité, ce qui semble super.
Après, attention, dans le film, il différencie bien les moments d'interprétation et les moments où c'est vraiment... ils utilisent les faits réels, le côté historique. Donc oui, ça reprend bien l'histoire d'Oppenheimer, oui, etc. Mais dans un film de ce genre, il y a toujours une part d'interprétation, notamment les discussions avec Einstein.
Okay, pour romancer, pour donner un fil conducteur aussi, parce que si on est basé que sur les interprétations, au final, c'est un documentaire.
C'est ça.
Il n'y aurait pas cette accroche cinématographique, voilà.
Notamment justement la fameuse discussion où le personnage de Robert Downey Jr. il devient fou en mode « mais qu'est-ce qu'ils se sont dit ?» Notamment ça, c'est de l'interprétation.
Oui, ça j'avais compris que c'était l'interprétation. Après, néanmoins, les discussions avec Einstein, je pense, ont été faites entre les...
Je pense surtout ce qui est réel, c'est tout ce qui se passe dans leur fausse ville qu'ils ont créée. Ça, je pense vraiment, par contre, c'est fait à l'identique, comment ça a fonctionné. Et c'était super intéressant de voir qu'ils ont créé comme une bulle.
C'est une expérience scientifique, quoi, immense.
Les enfants sont nés là-bas. C'est vraiment, ils ont vécu à l'écart de tout le monde pendant des mois. Ça a
la pression, c'est...
C'était franchement... Terrible. Et les décors aussi par rapport à ça, de cette ville, les décors qu'ils ont fait pour
incroyable.
Cette ville. Incroyable, vraiment.
Et après, je sais pas si vous avez ressenti ça aussi, mais le fait que ça soit un film très scientifique, tous les longs dialogues autour de la science, parfois, moi, j'ai pas tout compris, quoi.
Mais oui.
Je savais pas où ils voulaient en venir. Et donc ça... Par cet aspect, ça le rend peut-être moins accessible pour,
pour
certaines personnes.
Après, j'ai pas trouvé ça non plus hyper présent. On pouvait quand même vachement comprendre, même si on était
mais moi, perso, c'est vrai que je m'attendais à plus de côté politique, mais il y a des moments, genre, ils donnent 10 000 noms de scientifiques, etc., ils donnent des termes. Enfin, après, j'ai pas trouvé que ça ralentissait le rythme du film, que ça le rendait moins intéressant, mais c'est vrai qu'il y a des moments, si t'es pas un minimum scientifique, j'étais en mode, ouais, bon, j'ai pas trop capté, personnellement, mais... Après, c'est intéressant.
Après, moi, j'aime bien aussi, des fois, pas tout comprendre et me dire « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» D'accord. Et je me raccroche après un élément. Et c'est aussi les films qui sont comme ça, je trouve.
Je suis d'accord.
Et j'aimerais bien souligner, par rapport au film Oppenheimer, alors déjà, le fait que je ne sais plus le nom du compositeur de la bande-son du film, mais alors, il était bien nommé dans la catégorie meilleure musique, enfin, meilleure bande originale de film. Mais voilà, je suis très déçue qu'il n'ait pas gagné parce que je sais... Enfin, est-ce que vous, en regardant Oppenheimer, ça vous a marqué la musique ?
Bah, c'est lui qui a fait la musique pour Interstellar ou je me trompe ?
Si, il y a moyen parce qu'après...
Il me semble que c'est lui.
Il y a moyen. Interstellar, c'est Christopher Nolan.
Oui.
Oui, bon, ben, y a moyen souvent, mais le réalisateur et le compositeur.
Peut-être que ce n'était pas le même, hein, peut-être que je me trompe, mais j'ai trouvé la bande-son incroyable. Je trouvais qu'à chaque moment du film, il y avait les rebondissements avec la musique, et c'était en parfait timing.
Surtout le début du film, quand il est encore étudiant. Enfin, je ne sais pas si vous avez la ref du coup de la musique qui s'appelle Can You Hear the Music, qui est absolument... Je ne sais pas, je trouve que ça allait trop bien avec le film. Et en deuxième oublié aussi, je voulais dire Florence Pugh, qui, oui. J'ai pas compris, Emily Blunt est géniale. Mais Florence Pugh aurait dû être nommée en meilleure actrice en second rôle parce que waouh,
c'est vrai qu'elle joue très bien d'accord. Aussi.
Mais ils ont remporté le prix du meilleur la meilleure musique de film.
Non, je crois. Ah bon ?
Attendez, je recule.
Ah mais oui, il y a moyen. En fait, il n'est pas oublié. Bon, s'il a gagné, tant mieux. Alors.
Si oui, je l'ai cité. Dodé. Oui. Au début, j'ai dit meilleur film, meilleure photographie, meilleure musique, meilleur montage.
Bah youpi, ouais,
super. C'est mérité.
C'est mérité. Mais Florence Pugh, par contre, on est bien d'accord. Enfin, moi, je sais que son rôle, je l'ai trouvé fort et tout. Plus que Emily Blunt. En fait, Emily Blunt, son rôle, alors elle le joue trop bien. Mais je l'ai plus trouvé comme la seconde femme, en fait, de Oppenheimer. Celle qui est là, genre, ce sera celle pour la vie, mais c'est pas...
Je suis totalement d'accord.
Alors que Florence Pugh, elle a un rôle, elle apparaît pas si longtemps que ça dans le film.
Mais elle est marquante.
Mais
elle est vraiment marquante. Quand elle m'a marquée, enfin, son jeu est vraiment incroyable. Son personnage était tellement bien fait. Enfin, je trouve qu'il apporte, enfin, son personnage apporte beaucoup au film, apporte beaucoup d'explications par rapport aux prises de position du personnage d'Oppenheimer en fait.
Mais j'ai pas trop compris ce qui lui est arrivé en fait dans le film à ce personnage. Ça, c'est le truc que j'ai pas compris.
Elle a cette folie un petit peu qui l'a détruit, je crois.
Toi aussi, t'as une question aussi de ses prises de position politiques qui sont très controversées dans un pays qui est anticommuniste. Et en plus de ça, oui, c'est quelqu'un qui a une...
Elle se drogue, je crois, en fait.
Alors ça, je sais plus.
Et elle souffre aussi, et je crois qu'Oppenheimer est mariée et tout.
C'est elle souffre, je pense qu'elle prend des substances illicites.
Mais parce que j'ai pas compris, genre son destin à elle dans le film, j'ai pas compris.
Bah,
elle en a pas vraiment, peut-être.
Elle s'est suicidée, enfin j'ai pas compris si elle s'est suicidée dans le film.
Je sais plus non plus, mais...
Moi je crois qu'elle elle s'est suicidée.
Bah ouais, mais j'ai trouvé par contre le personnage disparaissait un peu, j'ai pas compris.
On a pas vraiment d'explication.
Pour moi en fait c'est comme elle apparaît dans le film, c'est juste une personne qui... passe dans la vie d'Oppenheimer, qui arrive aussi vite qu'elle repart et qui pourtant a, justement comme je l'ai dit juste avant, a marqué cette petite partie de la vie d'Oppenheimer par ses prises de position politiques, les idées qu'elle va lui transmettre, et qui lui justement ne voulait pas, enfin veut rester dans
un schéma,
qui veut rester tout un, enfin pas forcément neutre, mais en dehors de ça, parce que si je me trompe pas, il y a pas aussi un membre de sa famille à Oppenheimer qui est justement aussi
Oppenheimer est juif.
Oui, mais communiste.
Ah, son frère, crois.
Parce que c'est ça le lien justement avec.
De toute façon, on voit qu'il est partagé à fond tout le long. Et aussi, moi, ce que je trouve, c'est vraiment l'évolution du processus de la création de la bombe, où au début, il dit ouais, mais je suis juif, vous vous rendez compte de ce qu'on fait à ma communauté en Europe, on veut combattre Hitler. Et en fait, on voit de plus en plus l'idée initiale de combattre Hitler. Mais à un moment dans le film, on dit ça y est, Hitler est tombé. Et genre, c'est fini. Ils disent du coup, c'est les Japonais. Et en fait, j'ai trouvé que justement, on voit de plus en plus, c'est là où on voit le côté sombre. L'idée de base de la construction de la bombe, et au final, on l'a continuée, et c'est juste de la destruction. Du coup, ce sera les Japonais pour arrêter la guerre. Après, ça, c'est encore un autre débat politique, etc. Mais j'ai trouvé intéressant l'évolution de « Ah, je fais ça pour cette cause », et qu'au final, ça devient de la folie.
Et on a aussi cet enchaînement de guerres, comme tu le dis, qui s'enchaînent sans jamais s'arrêter. J'ai toujours en avoir une après, en fait.
Et juste pour revenir deux secondes au personnage de Florence Pugh, si je me trompe pas, justement, son apparition, tout ce qui est les prises de position par rapport au communisme, patati, et notamment aussi les traîtres dans la ville, etc. C'est ça qui va donner, en fait, c'est utile de le savoir justement pour le procès dont, ouais, il sera l'accusé, justement. Donc c'est pour ça aussi qu'elle a de l'importance, enfin son personnage aussi, voilà.
Et le procès, vous avez compris quoi? Parce que moi, j'arrivais pas à comprendre si Oppenheimer se défendait, mais en même temps, il a l'air totalement traumatisé. De toute façon, après, quand il réalise ce qui s'est passé, et j'avais du mal à comprendre la prise de position du personnage même. Comme s'il était effacé un peu. Ou...
Il a du mal à se défendre parce qu'il est pris en embuscade. Un petit peu.
Oui.
Il a été pris en fait dans une manipulation par justement l'acteur.
Par le personnage de Robert Downey Jr.
C'est ça, exactement.
On sait à la fin justement que c'est lui en fait qui a tout manigancé depuis le début parce que. C'est quoi ? Il y avait une histoire comme quoi il l'avait pris de haut une fois.
Je crois.
C'est ça, histoire d'ego, histoire de compétition scientifique.
Déjà, vous l'aviez reconnu rapidement ou pas, Robert Downey Jr.
Pas du tout. J'étais choquée.
Vous aussi, vous regardiez le film et je me disais. Je le connais, mais je sais pas qui c'est. Et c'est au bout d'un moment, j'ai dit Iron Man, c'est toi.
Ouais, vraiment.
Ouais, pareil.
Mais ça lui retombe dessus, du coup, à la fin.
À la fin, ouais.
Oui, mais à la fin.
À la fin.
Ça a mis vraiment du temps, je trouve. Et c'est là aussi que tu vois que la justice, à ces années-là, on dirait même que c'est fait un petit peu jeu de Monopoly. C'est pas vraiment sérieux, je trouve.
Ouais, après aussi, il a vraiment été. En gros, depuis le début, on voulait le faire tomber. Il faut prendre en compte que de base, ils avaient déjà, ils avaient créé des preuves contre lui. Enfin, ils l'ont enregistré pour qu'il y ait une preuve irréfutable.
Oppenheimer,
ouais.
Oui, depuis le début. Mais ouais. De toute façon, depuis le début, lui, il se faisait manipuler. Enfin, il a été pris dans sa folie scientifique parce que c'est un passionné, je pense. Enfin, moi, je l'ai vu comme ça, en mode, on lui a donné un but précis et puis ça correspondait. Enfin, du coup, je sais pas si ça correspondait à ses valeurs puisqu'il était partagé.
Je suis
mais...
pas forcément d'accord parce qu'on le voit dès le début qu'il sait.
Mais on l'a enfermé dans une bulle. On l'a enfermé dans une bulle. Ça a duré combien de temps? Leur village, enfin où ils ont construit la bombe.
Longtemps, je crois.
Mais longtemps, parce que il a eu le temps d'avoir deux enfants quand même là-bas, je crois. Donc.
Après, on lui a quand même, c'est quand même quelque chose à la base qu'on lui a demandé.
Ouais.
Certes, il l'a fait par lui-même, mais moi, je pars toujours du principe que ça reste aussi son métier de scientifique de faire un petit peu malheureusement ce qu'on lui demande. Il aurait pu totalement refuser, mais il a toujours dit qu'il allait créer justement une arme destructrice et.
Et vous en avez pensé quoi du moment où ils font le test de la première bombe? Parce que tout le monde en a parlé, ce moment au cinéma où d'un coup, il y a l'angoisse avec le chronomètre, le compteur.
Où le temps s'arrête, il n'y a plus de
et
son.
Et un énorme
c'est
silence.
Un gros blanc. Ouais, c'est vraiment le moment qui m'a le plus marqué pendant le film.
Ouais, tu te sens tout petit dans la salle.
Tu te rends compte comme c'est géant, quoi, cette arme.
Ouais, t'imagines, ça tombe sur ton village au Japon, t'as rien demandé, ça doit être... De toute façon, moi j'ai beaucoup aimé justement le jour où la bombe part au Japon et Oppenheimer, il sait ce qui va arriver, il sait ce qu'il a créé et il est juste là en mode, voilà, c'est parti.
Et en plus, à la fin, on lui reproche pas justement tout ça dans le procès.
Je crois.
Et alors que,
il avait plus le pouvoir. Lui, fois, c'est justement, ils disent quoi quand ils mettent la bombe dans le camion et tout? Ils disent, non, mais ça y est, vous nous dites plus rien, c'est plus dans... Le sort n'est plus entre vos mains. Vous avez créé la bombe, merci, au revoir. Et ils lui disent ça et il reste là en mode, le sentiment que ça doit être, t'as créé quelque chose, tu sais ce que t'as créé, mais... T'attends.
Et il y a aussi cette discussion avec le président à un moment, moi je trouve, qui est hyper marquante, où tu vois les positions du président qui dit clairement qu'il sait ce qu'il fait en fait, et qu'il le traite un petit peu de, j'exagère un petit peu, mais de fragile. Enfin, je me rappelle plus exactement la discussion, comme elle est tournée, mais ça m'a marquée.
Ça me dit quelque chose.
Tu vois la méchanceté.
Oui, mais qui lui dit un peu comme assume, enfin en mode.
Oui, c'est ça, tu l'as créé en fait. Donc maintenant, et Oppenheimer juste s'exprime sur le fait que il se voit déjà avec du sang sur les mains et qu'il se sent mal par rapport à ça.
Et je trouve ça intéressant de voir que c'est pas un personnage qui est en mode je vais créer la bombe, je sais ce que c'est, et de voir que lui, c'est une démarche scientifique et que très vite, justement, c'est là où Christopher Nolan, c'est excellent qu'il ait mis en avant d'un coup que comment ça nous rattrape la folie humaine. Waouh, j'ai fait un truc extraordinaire, mais en même temps un truc ignoble, inhumain.
Oui. On voit aussi que c'est vraiment les politiques qui dirigent les pays plus que les scientifiques, puisque justement le président va lui dire à la fin « Mais ce n'est pas toi qui décides d'envoyer la bombe, enfin, ne prends pas trop de grosses responsabilités. » Il le remet un petit peu à sa place finalement par rapport à ça.
Alors je suis d'accord avec vous, mais j'aimerais quand même dire que le personnage de Oppenheimer est... très ambigu dans le film et que je pense pas qu'il soit aussi fragile et naïf que ce que l'on voit et on pense. Je pense qu'il sait très bien ce qu'il fait aussi, et ça se voit justement lors du procès, et aussi lors de ses prises de position politique. Alors, bien sûr, je ne dis pas le contraire, que ça ne l'a pas atteint tout ça, notamment avec le président, etc. Mais il faut bien penser que je pense qu'il sait ce qu'il fait aussi. C'est un personnage vraiment très ambigu du début à la fin, et c'est ça qui m'a plus marqué pendant ce film.
Après, c'était aussi un défi scientifique. Je pense que c'était un défi qui s'est mis à lui-même de « je vais réussir à créer cette bombe ».
C'est un ensemble de choses qui jouent.
C'est vrai que c'était intéressant de rentrer dans les états d'âme du personnage, et vraiment, ça rendait bien compte de tous les enjeux moraux derrière cette bombe, et des incidences mondiales.
Bon, je pense, en vue de la discussion, on comprend bien pourquoi Oppenheimer a eu autant de succès aux Oscars. Parce qu'il y a énormément de choses à dire sur ce film.
Vraiment.
Juste parfaitement réalisé et parfaitement interprété. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur les Oscars, d'autres prestations qui vous ont marqué, des remises de prix qui vous ont aussi marqué, je sais pas.
Non. Est-ce que vous avez vu Le Garçon et le Héron?
Non,
je ne l'ai malheureusement pas vu, je vais absolument le voir, mais aussi. Apparemment c'est super
beau. Des avis très divers sur ce film.
C'est le dernier Miyazaki.
C'est ça. Moi, je l'ai trouvé intéressant parce que ce qui était vraiment cool en tant que personne qui adore les Miyazaki, c'est que vraiment là, on retrouve toutes les refs ses précédents films. Et il aborde sa répertorie, tous ses thèmes de prédilection, genre la guerre, la famille, le voyage et en fait, on est transporté dans plein de mondes. Mais après, je comprends ceux qui ont pu le critiquer parce qu'on se perd un peu dans le film à des moments.
De toute façon, il a
gagné juste ce prix.
Ouais, et il a gagné
le meilleur film d'animation.
Il a gagné le meilleur film d'animation.
Mais en vrai, c'est toujours comme ça avec les films de Miyazaki. C'est toujours très complexe à regarder. Enfin, je sais pas comment.
C'est poétique. Il y en a beaucoup. Ils disent. Enfin, tu sais, t'interprètes.
Il faut se laisser transporter.
Parce que c'est vraiment un univers propre à lui.
Mais c'est son dernier film en sortie ou c'est son dernier film?
Ça, on ne sait pas. Il dit toujours que c'est mon dernier, il en refait un.
Donc apparemment, il a encore de l'inspiration.
Ouais. Donc, il a gagné un prix. Ouais, parce qu'il y a aussi les prix des documentaires, des courts-métrages. Et je crois qu'il y a un documentaire qui a gagné, justement, c'est hyper politique, c'est très actuel, mais je ne saurais pas vous dire, je ne me suis pas assez renseignée.
Moi non plus.
Mais on vous invite du coup aussi à vous renseigner sur les autres prix qu'il y a eu, parce que c'est vrai que les Oscars récompensent énormément de catégories.
Et on n'a pas tout vu. Énormément
de personnes, et on n'a pas tout vu. Et du coup, ça peut être très intéressant parce que les Oscars, bien que ça concerne le monde du cinéma et tout, je pense que géopolitiquement, c'est hyper intéressant à regarder.
Oui.
Il y a plein de messages qui fusent pendant la soirée. Donc, c'est vraiment super intéressant. Sur ce, je crois qu'on a abordé, nous, en tout cas, l'essentiel qu'on avait à dire. Donc, voilà, on vous invite à vous faire vos propres opinions, à regarder aussi les films qui ont marqué cette 96e cérémonie des Oscars.
Merci de nous avoir écoutés.
Merci. Merci les filles pour votre participation. Au revoir.
À la prochaine.